J'ai le grand plaisir d'accueillir pour cette conférence Monsieur Régis Boyer, professeur émérite de la Sorbonne, spécialiste des littératures et civilisations scandinaves, et qui en plus parle le vieux norrois, en plus de toutes les langues, les nombreuses langues. Combien vous parlez de langues
La mienne, je parle très bien.
Ah, oui, non, je sais. Voilà. Qui va nous parler d'un personnage, on va dire, féminin, finalement assez méconnu, que le grand public connaît surtout probablement au travers de la fameuse chevauchée des Valkyries wagnériennes. Voilà, donc, j'ai nommé les Valkyries. Maître, à vous.
Bon, chers amis,
c'est enregistré.
Je dois dire d'abord que je suis heureux d'être ici. Je ne rate jamais une occasion de me manifester, si on le veut, dans des colocations de ce genre. Excusez-moi. Évidemment, il aurait mieux valu que l'on vous fît entendre deux ou trois mesures de la Valkyrie de Wagner. Et ça vous aurait permis de prendre la mesure de toutes les erreurs qu'on peut faire autour de la question, parce que ça fait donc 60 ans que je m'occupe des réalités scandinaves, anciennes et modernes, et sur le compte desquelles, pour des raisons que je ne parviens pas à m'expliquer, nous, Français, commettons perpétuellement et comme systématiquement des erreurs difficilement explicables. Non, les Vikings ne furent pas du tout des conquérants irrésistibles et sanguinaires qui portaient des casques à cornes. Ils n'ont jamais eu de cornes à leur casque. Non, les runes ne sont pas des signes magiques difficiles à interpréter. Non, les sagas ne sont pas des textes poétiques ou épiques ou religieux, etc. Et non, les Valkyries ne sont pas ce que vous croyez. C'est quelque chose d'un peu méritoire et fatigant, ce double travail que nous avons à faire, qui est à la fois, nous, c'est-à-dire les scandinavistes, à la fois un travail de vulgarisation, d'honnête vulgarisation, conforme à notre métier, et un travail de démythification ou de démystification. D'un autre côté, nous sommes dans le domaine de l'imaginaire, par excellence, je dois dire. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que j'ai accepté l'invitation de Mme Nico à venir vous parler. Parce que vraiment, vous allez voir, les Valkyries ressortissent par définition et par excellence au domaine de l'imagination populaire. Autrement dit, je vous remercie d'être venu. Parce que j'ai le sentiment, malgré tout, c'est ça la déformation professionnelle, que je vous enseignerai quelque chose tout de même ce soir. Le premier problème qui se présente pour qui veut savoir qui furent les Valkyries, c'est un problème de source. Comme vous le savez, presque toutes nos sources sont islandaises. Entre 1100 et 1350, tout ce que nous pouvons savoir sur les antiquités nordiques et le fait des Islandais. C'est tellement inexplicable, ils étaient 35 000 au maximum, que les spécialistes comme votre serviteur se tirent de difficultés en parlant de miracle islandais. Comment 35 000 hommes et femmes ont-ils pu concilier toutes les Eddas et les poèmes qui nous parlent de ces dieux et de ces mythes, toute la poésie skaldique qui reste à ce jour la plus compliquée, la plus sophistiquée, la plus difficile que l'Occident dans son ensemble ait jamais enfantée, ont pu composer les sagas, il y en a 150, qui se répartissent en toutes sortes de catégories, ce n'est pas mon sujet, mais qui ne sont pas ce que vous pensez, comme je viens de dire. Et surtout, surtout, je veux insister là-dessus, surtout, surtout, parallèlement à ce travail de création, Edda, Skald, Saga, ces hommes et ces femmes qui ont écrit, c'est une parenthèse, mais vous savez que l'Islande, 350 000 habitants aujourd'hui, reste de très très loin le pays le plus lettré, le plus littéraire, le plus cultivé du monde. Il n'y a pas d'analphabétisme là-bas. Ils battent tous les records de publication de magazines, de journaux, de livres, de revues, de fréquentation des bibliothèques, etc. Bon. C'est un phénomène qui dure depuis qu'ils existent en tant qu'Islandais, c'est-à-dire depuis 874. Je ferme cette parenthèse. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que ces hommes et ces femmes qui sont responsables de la naissance des Eddas, de la poésie skaldique, des sagas, se sont aussi livrés à un travail de traduction absolument époustouflant. Tout ce que l'Occident a pu écrire et publier à égalité d'époque, c'est-à-dire avant le XIVe siècle, tout ce que l'Occident a pu écrire de travaux scientifiques, entre guillemets, qui ressortiraient à la mathématique, à l'astronomie, sciences naturelles, à la grammaire, à la géographie, à l'histoire ancienne, tout a été traduit en islandais. Là, j'espère que je vous étonne. Nous avons des versions islandaises de Saint-Grégoire, de Vincent de Beauvais, d'Honorius d'Autun, d'Isidore de Séville, si ces noms-là vous disent quelque chose, bien sûr. Alors, cela induit immédiatement une réflexion que je suis en train, en ce moment même, dans les revues savantes et illisibles où j'ai sévi, je suis en train d'essayer de pousser à son terme. Ce sont les mêmes hommes qui, par exemple, ont traduit les dialogues de Saint-Grégoire et qui ont composé les sagas ou les Eddas. En clair, il ne peut pas ne pas y avoir eu de déteinte de ce phénomène, disons classique, sur le phénomène antique. Je discutais avec l'un d'entre vous tout à l'heure, qui parlait de Loki. Loki, ça vous dit que peut-être quelque chose, c'est un des grands dieux de la mythologie du Nord. Il porte un nom qui est le même que celui de Lucifer, Lucifer, ou le celtique Lug, qui est le fondateur de Lugdunum, que vous appelez Lyon, la ville de Lyon, etc., etc. Alors, la pensée, j'ai bientôt fini avec ma petite introduction, la pensée qui vient à l'esprit, c'est que ces gens qui étaient simultanément compositeurs des Eddas, de la poésie skaldique, des sagas, et traducteurs, comme on disait traducteurs au Moyen-Âge, hein, c'est plutôt adaptateurs que traducteurs, de textes en latin, antiques ou médiévaux, comment ces gens-là n'ont-ils pas cédé à ce qui fut la loi de l'écriture médiévale, qui était la loi de l'imitation, par excellence, ou adaptation, comme vous voudrez. Ils ont adapté ce qu'ils tiraient de leur savoir grec, latin, hébreu, à peut-être de lointaines et vagues traditions qu'ils avaient héritées de leurs ancêtres, traditions sur lesquelles nous ne savons rien. Ça y est, j'ai fini mon introduction. Parce que si j'ai à vous parler des Valkyries, c'est ce que je vais faire ce soir, vous devez tout de suite admettre que nous ne savons pas ce que sont les Valkyries, qu'elles étaient certainement, si elles ont existé, autre chose que ce que vous croyez, et que donc il importe d'urgence que vous reléguiez ce que vous avez appris de Wagner. Je ne dis pas de mal de Wagner. C'est un des génies romantiques, post-romantiques, que nous possédons dans le domaine de la musique. C'est aussi un grand poète. Vous savez qu'il était le compositeur du texte de ses opéras, de la tétralogie en tout cas. Vous savez aussi que c'était un très grand architecte. C'est lui qui a conçu les bâtiments de Bayreuth, que peut-être vous connaissez. Alors, je ne dis pas de mal de Wagner, mais je prie qu'on laisse Wagner dans sa bulle, comme on jargonne aujourd'hui, et que l'on essaye, ne soit pas tenté de déduire de ce qu'il dit dans la tétralogie ce que dut être la mythologie dont il parle. Voilà. Je vais donc m'appuyer sur les Eddas. Les Eddas donnent en particulier un poème qui s'appelle Völundarkvida. Je vais vous écrire ces mots-là au tableau quand ça sera vraiment inaudible, n'est-ce pas ? Völundarkvida. C'est-à-dire, c'est le chant de Völundur. Völundur, c'est un des grands noms de cette mythologie-là, semble-t-il. C'est celui du forgeron merveilleux. parce qu'il s'est fabriqué des ailes. Notez le détail, des ailes. Donc, comme Héphaïstos, chez les Grecs, ou ses descendants, qui s'appelaient Dédale ou Icare, qui se sont fait des ailes aussi, ou comme le forgeron merveilleux latin Vulcain, ou comme le forgeron merveilleux égyptien, qui s'appelle Ptah, et ainsi de suite. Des gens extraordinaires, et probablement divinisés à cause de ça, qui s'étaient fabriqués des ailes avec lesquelles ils volaient. Alors, dans l'Edda poétique, vous avez un poème sur Völundur. Je vais quand même écrire son nom au tableau, parce que je tiens à rester vivant. Völundur. Veland, auf Deutsch. Nous avons d'ailleurs une saga, une chanson de geste de Veland, mais qui est une chose récente. Alors, les Edda nous parlent du forgeron merveilleux, Völundur, qui, je vais vous lire le texte tout à l'heure, qui suscite, je pèse mon verbe, la naissance des Valkyries. Mais avant d'en venir là, je souligne que nous avons aussi des grands poèmes skaldiques, où il est question, skaldique, le skald c'est le poète, dans cette culture scandinave ancienne là, où il est question des Valkyries. Par exemple, un poème qui s'appelle Haakonarmaul, c'est-à-dire l'édit de Haakon, c'est un roi grec, que voici. Gautatir ça c'est Odin, c'est le dieu Odin. Envoya Gundul et Skögul, Gundul et Skögul c'est deux Valkyries justement. Entre les rois choisir, qui de la race d'Ingvi, Ingvi c'est un dieu, devrait avec Odin partir pour la Valhöll. Valhöll, c'est ce que vous appelez Valhalla. Alors, question, pourquoi donc Skögul à la lance, c'est une Valkyrie, décider ainsi du combat? Nous avions mérité des dieux la victoire. Nous avons fait en sorte que tu tiennes le terrain et que fuient tes ennemis. Nous devons chevaucher, dit Skögul la puissante, vers les vertes demeures des dieux, dire à Odin que maintenant le souverain vient pour le voir. Le prince déclara qu'il venait du tumulte tout aspergé de sang. De fort méchante humeur, Odin nous paraît être et nous craignons son cœur. Tu jouiras de la paix de tous les Einherjar, bois la bière des As, les As c'est les dieux, adversaires des Jarls, tu possèdes ici 8 frères, dit Brahim. Bon, je vous lis ce texte auquel vous n'avez strictement rien compris, simplement pour vous montrer que les Valkyries sont mises en relation directe avec les dieux qui tuent, les dieux de la mort. Ça, vous mettez ça sous le coude, parce que j'en reparlerai d'abondance. Ce que je veux dire, la poésie skaldique est ancienne, elle est plus ancienne que les sagas, elle est sérieusement plus ancienne que les sagas, 2, 3 ou 4 siècles. La poésie skaldique se fait parfois l'écho d'imagerie, de représentation qui nous renvoie aux Valkyries, justement. On possède un poème absolument extraordinaire qui figure dans la saga de Njartl le Brûlé. C'est la plus belle de toutes les sagas. Le poème s'appelle Darrarjo. Ça ne veut pas dire défendre le fourré. Ah, bah tiens, j'ai changé. Ah, très bien. Darrarjo. Voilà. Le lait, elle a lu. Un genre médiéval, de Dörrivir, c'est un héros. Alors, on vous raconte que ce dénommé Dörrivir, Darradar dans le poème, hein, qui est un génitif, un soir, à la tombée de la nuit, il va voir à la fenêtre de sa maison et il voit surgir 12 femmes à cheval qui arrivent de l'Est, comme par hasard, qui entrent dans le pavillon voisin, qui posent leurs ailes, car ce sont des femmes ailées à cheval, et qui se mettent à tisser. Se mettent à tisser un métier à tisser étrange, parce que les anciens germains disposaient, je dis ça pour les dames qui peut-être s'intéressent à la question, d'un métier à tisser vertical, pas horizontal comme le nôtre. Ça existe toujours. Alors les poids de tension des fils sont des crânes humains. Les fils sont des entrailles humaines. Le fouloir, c'est-à-dire la pièce en principe de bois avec laquelle on tasse les fils est une omoplate, et ainsi de suite. Et ces femmes, tout en tissant, chantent. Vaste montée, pour la mort des hommes, la toile a tissé. Le sang pleut. Le tissu gris des hommes est monté maintenant sur l'avant de la lance, et les amis des hommes l'emplissent de la trame rouge du meurtrier de Ranvier, un héros. Le tissu est tissé d'entrailles humaines et durement tendu de têtes d'hommes. De sanglantes lances lui servent de lame. De fer sont les montants, de flèches les navettes. De l'épée nous foulons ce tissu de bataille. Et ainsi de suite, ça dure une vingtaine de strophes qui toutes commencent ensuite par « nous tissons la toile de la lance, celle que le jeune roi naguère possédait, etc. » Et nous accompagnerons ensuite le roi, et ainsi de suite. Cette image du métier à tisser ne peut pas nous laisser indifférents. D'abord parce que toute l'Antiquité a accordé quelque chose de magique à la science du tissage, vous savez ça, qui consiste avec de la vulgaire laine de mouton à arriver à fabriquer les habits que vous portez. Il y a donc une espèce de transmutation des vertus du matériau qui implique, à cette époque-là, tout devait avoir une connotation magique, qui implique une intervention magique. Bon, c'est tout. Je voulais simplement vous donner une idée des quelques textes où il est question des Valkyries. Elles sont très présentes dans toute la littérature nordique ancienne. Et même chose exceptionnelle, elles sont présentes aussi dans l'iconographie. Je veux dire que nous avons des représentations figurées de Valkyries, des petites statuettes de cette taille-là, ou bien dans des pierres, des gravures, qui représentent des femmes avec des femmes. Elles ont de longues nattes et elles tendent une corne à boire. Vous verrez pour vous pourquoi tout à l'heure. Bon, c'était la première approche que je vous soumettais. C'est peut-être un peu compliqué. Ce que je raconte, si c'est trop compliqué, vous le dites et je me suicide. C'était la première approche. La deuxième est différente. Je voudrais parler de la femme du Nord. La femme du Nord. Comme toutes les autres religions que l'humanité ait connues, les Germains ont commencé par vouer un culte à la déesse mère, ou la grande déesse, ou la terre mère, etc. Ça, ça n'a rien de particulièrement germanique. Nous tous avons commencé par là. Seulement, à cause des avatars de l'histoire, il se trouve que les documents de ce genre se sont mieux conservés dans le Nord que chez nous. Chez nous, nous avons été trop bousculés par trop d'invasions, par trop de religions, etc. Et nos documents vraiment très anciens ont disparu, ont été grattés, recouverts, effacés, tout ce que vous voudrez. Alors que dans le Nord, on a conservé, mieux qu'ailleurs, ça s'appelle des gravures rupestres, des gravures dans la pierre. Ça date de l'âge du bronze, c'est-à-dire pour eux, entre 1800 et 400 avant notre ère, bien sûr. Vous en trouvez partout, en Suède, en Norvège, parce que aussi il y a là-bas, à cause du relief glaciaire, des roches qui sont très usées et qu'il est facile de graver quelque chose dessus. Alors, on a étudié ça en détail, je ne vous ennuie pas avec ça. On a aussi fait la liste des motifs qui reviennent préférentiellement parmi ces gravures rupestres. Et le motif qui revient le plus, c'est le soleil. La soleil. Parce que le soleil est féminin dans les langues germaniques, alors que lune est masculin. Alors, ou bien vous avez le soleil, qui est représenté de toutes les façons possibles, y compris par la swastika. Swastika, c'est la croix gammée, comme vous le savez. La croix gammée n'est pas du tout un symbole sexuel, comme l'on dit des tas d'imbéciles, surtout à l'époque hitlérienne. C'est un symbole solaire, tout simplement. C'est une chose qui tourne avec des rayons qui sont, du coup, émetteurs de chaleur. Ou bien aussi beaucoup de représentations vulvaires. Je veux dire par là que la femme, avec un F majuscule, la grande déesse, la déesse mère, occupe une place vraiment prépondérante dans les représentations les plus anciennes que nous ait cédé le Nord. Or, la grande déesse, ou la terre-mère, ou la déesse-mère, c'est bien connu. Je ne vous apprends rien, vous savez tous ça. elle a un enfant qui est nécessairement un androgyne. Nécessairement. Je ne vois pas, je ne connais pas d'exemple du contraire. Et j'ai fait des recherches là. Et cet androgyne, le temps aidant, se divise en jumeaux hétérosexués. C'est-à-dire la grande déesse, l'androgyne, les jumeaux. Jumeaux hétérosexués. Pas deux garçons ou deux filles, mais un garçon et une fille. Alors, il se trouve que nous avons une riche documentation dans nos sources anciennes sur ces trois thèmes-là. Sur le fait que la femme a d'abord été la grande déesse, la terre-mère, la déesse-mère, que toutes nos traditions germaniques, celtiques aussi, hein, tant que vous y êtes, anciennes, postulent l'existence d'un androgyne qui dure jusqu'à nos jours. Le nombre de romanciers suédois, danois, norvégiens, islandais, dont le personnage principal est un androgyne, est assez remarquable. Vous savez, vous en connaissez au moins, il s'appelle Strindberg. Vous avez déjà entendu parler, l'auteur dramatique très célèbre. Un nombre sérieux de ses pièces présente un ou une, allez savoir, héros ou héroïne principale, dont le sexe n'est pas sûr. Bon, donc, on a commencé par là. Grande déesse, déesse-mère, terre-mère. Elle va se dédoubler. Je suis en train de suivre l'évolution en chronologie. Elle va se dédoubler sous ces trois faces, qui sont les trois faces de la femme. Il y a la femme sexuelle. Elle sera représentée un jour dans la mythologie nordique, ancienne, par la déesse Freya, dont la vertu laisse beaucoup à désirer. On l'accuse d'avoir couché avec tous les autres dieux, ce qui représente une belle performance, je dois vous dire, parce qu'ils sont nombreux. Ça, c'est la déesse, pardonnez-moi, putain. La seconde phase de la déesse, c'est la déesse mère, amante, qui entretient sa maison. Elle est représentée par celle-ci, qui s'appelle Frigg. C'est elle ce qui a donné son nom au vendredi, Freitag, Friday. Vénérus, Vénus, dies chez nous. C'est la même. Et la troisième phase, c'est celle qui a donné son nom à la Scandinavie. Skari. Scandinavie vient d'elle. Scandinavie, c'est en vieux norrois, Skarin, Auja. Auja, c'est l'île, ça donne œil, œil aujourd'hui dans la littérature. Et Skarin, c'est son nom. Ça ne veut pas dire du tout l'île des périls, comme on l'a dit. C'est vraiment le territoire de. J'insiste là-dessus pour dire que ce sont des déesses qui sont importantes. Alors, Freya patronne la vie. L'acte sexuel qui est censé, dans ces cultures-là, par définition, donner la vie. Frigg, c'est celle qui entretient la vie, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison. Husfreya, vous appelez un violent roi. Et Skadi, c'est la mort. Et ça, je vais y revenir là-dessus. C'est la déesse qui patronne la mort. L'idée de base, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Mircea Eliade, que vous connaissez peut-être. Il a démontré que celle qui donne la vie est donc ipso facto en droit de régenter la mort. Je donne la vie, je préside à la mort. Bon, vous avez les trois faces. Je suis toujours, je ne suis pas encore dans mes Valkyries. Hein. Bon, je ne sais pas si je vais en parler. Je suis toujours dans mes prémices, dans mes prodromes. Je viens de souligner l'importance fondamentale de la femme et la diversité des visages qu'elle prend au fur et à mesure de l'évolution en chronologie. Maintenant, je ne suis toujours pas dans les Valkyries, mais j'y viendrai, là, ne pleurez pas comme ça. Maintenant, je voudrais faire un peu de sociologie. L'amour-passion, au sens où les films américains et la revue Elle l'entendent, c'est pareil pour moi. Hein. Ça ne vaut pas plus cher dans un cas que dans l'autre. L'amour-passion n'existe pas dans le Nord. Je n'épouse pas la femme que j'aime, ça se trouve. Pourquoi pas? Moi, je représente 40 bateaux et 250 vaches, et je vais épouser 10 hectares de terre et 6 maisons. D'ailleurs, ce n'est pas original, ça, mes amis. Toute l'Antiquité était comme ça. L'amour-passion, c'est une histoire chrétienne, ça. Hein. Avant, ça n'existait pas. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour-passion, si. Mais les exemples sont très rares, en fait. Hun var haunen kate for aur. Elle lui fut donnée en mariage pour de l'argent. C'est du vieux norrois. C'est une phrase absolument banale dans les sagas. Il y avait même des gens qui étaient spécialistes, des marieurs ou des marieuses. On a connu ça aussi dans notre Moyen-Âge, hein, qui se disait que la petite Dupont, elle irait pas mal avec le petit Durand, ça ferait un bon mariage, ça serait égal de part et d'autre, et on va les marier. Bon, ça, c'était la norme. Autrement dit, ne cherchez pas... Je suis toujours dans la femme, hein, si je peux m'exprimer de la sorte. J'y viens, les Valkyries sont des femmes. Ne cherchez pas de d'épanchement ou d'effusion dithyrambique et érotique chez les Valkyries. Ça viendra, mais on n'y est pas encore, n'est-ce pas ? En revanche, la femme, elle est absolument maîtresse de sa maison. C'est-à-dire, si ça existe encore, ça figurez-vous. Si vous allez encore aujourd'hui vivre en Scandinavie, vous constaterez que la porte principale de la maison, et en bas, il y a une espèce de petite lame poutre. Si vous êtes aussi myope que votre serviteur, vous ne manquerez pas de vous casser la figure. Moi, ça m'est arrivé un nombre sérieux de fois pendant les 10 ans que j'ai passé là-bas, n'est-ce pas ? En fait, cette poutre, Stocker, ça s'appelle, avait une valeur légale. Une fois passée la poutre, on rentre dans la maison, proprement dite, et vos actes ont une toute autre valeur. Si je vous tue votre frère à l'extérieur de la maison, bon, ça, on peut en parler. Ça se monnaie, ça se discute. Mais si je vous le tue dans la maison, alors là, c'est un crime inexpiable. Bon, cette poutre s'appelait Stock. La femme mariée régnait Innan Stocks, une fois passée la poutre de seuil, si vous voulez. À l'intérieur, l'homme n'avait pas le droit de regarder. C'était elle qui s'occupait de la nourriture, du vêtement, de la gestion des affaires, des vieillards, des umagi, que ça s'appelait, et ainsi de suite. L'homme, lui, il s'occupait de ce qui était Utan Stocks, c'est-à-dire de l'autre côté de la poutre. Non, des affaires extérieures, de la politique, de l'économie, tout ça. Il y avait une répartition des rôles extraordinaire. J'espère que vous commencez à vous faire un petit peu une idée de ce qu'a pu être la femme dans cette culture-là. Je veux seulement mettre un point en relief. Je vais en parler des Valkyries, soyez tranquilles. Je veux mettre un point en relief. C'est que la femme a un caractère sacré dans cette culture-là. Il y a sûrement des féministes dans la salle, ici, n'est-ce pas ? Pleurons ensemble. Comme vous le savez, ce sont les Scandinaves qui ont remis en valeur le féminisme. Elles n'ont fait que se remettre en relation avec ce qu'elles étaient, disons, avant l'an 1000, où elles avaient, si j'ai bien compris, pas mal de pouvoir. Je n'ai pas l'air, hein, mais je suis d'une fausseté à crever, vous voyez bien. Je suis en train de déchiffrer mon sujet tout doucement en le prenant par les côtés afin de vous mettre en confiance. Je peux dire que la femme dans cette culture-là était l'âme de la société, était l'âme d'une société dont l'homme aurait été le bras ou le cerveau. Il y avait une complémentarité vraiment remarquable que nous avons complètement perdue, même chez eux aujourd'hui. Bon. Voilà ce que je voulais dire de la femme, d'une façon générale, avant d'aborder mon sujet. Mais ça y est, j'y suis, dans mon sujet. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que la notion de Valkyrie a évolué considérablement au cours du temps. Je voudrais que vous vous débarrassiez de l'image de la Valkyrie casquée, chevauchant accru, un cheval fougueux, brandissant une lance et chargeant je ne sais pas quoi. Il y a des tableaux en quantité industrielle avec cette imagerie-là à la clé. Valkyria. V-A-L-R. C'est un substantif collectif qui désigne non pas exclusivement les hommes qui sont morts au combat et qui, dont le cadavre est resté gisant sur le champ de bataille, mais les morts, tout simplement. C'est un collectif, un masculin collectif, valeur, les morts. Kyria, en linguistique, on appelle ça un déverbatif. C'est-à-dire, c'est un substantif qui est fabriqué sur le verbe kyosa. To choose, in English. Küssen, auf Deutsch. C'est-à-dire choisir. C'est la femme qui choisit qui va mourir. Pas nécessairement un combattant. Pas nécessairement un ennemi. Elle choisit qui va mourir. Je vais développer ça. Hein. Pourquoi ? Parce que les gens qui meurent, cette culture-là n'envisageait pas vraiment d'enfer ni de paradis, ça c'est des notions chrétiennes, c'est des notions plus vieilles que les chrétiennes. Envisageait quel était le sort enviable qui attendait celui qui va mourir. Il s'en allait à l'aval. Alors vous retrouvez le Val ici, les morts. Hop, c'est la halle. C'est notre mot français, halle. Ne dites pas Valhalla, avec un W en plus pour faire bien. C'est la version allemande de la chose, mais le vrai nom, c'est Walhalla. Alors, les Valkyries sont les femmes qui choisissent ceux qui vont mourir afin qu'ils aillent peupler la Valhalla. Et pourquoi peupler la Valhalla? Comme ça, vous aurez fait un peu de vieux norrois quand même. Vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, ils iront à la Valhöll pour devenir des Einherjar, des guerriers exemplaires, des guerriers, des parangons de guerriers. Pluriel, Einherjar. Ce sont les hommes qui peuplent la Valhöll et qui d'ailleurs seront, ça j'y reviendrai, qui seront servis là-bas, dans la Valhöll, par les Valkyries qui leur offriront de la bonne bière ou de l'hydromel. Et ils passent leur vie. C'est le mythe de Snorri Sturluson, mais ça n'est pas un mythe bon teint. Ils sont servis par les Valkyries qui leur offrent de la bière. On fait cuire un sanglier, Sæhrimnir s'appelle, sur un feu particulier. Mais le sanglier, il a cette vertu que on peut en manger tant qu'on voudra dans la journée. Sa chair ressuscite le lendemain matin, on peut recommencer, vous voyez. Ça résout les problèmes d'alimentation, comprenez-vous. Bon, alors voilà ce que c'est que les Valkyries. Je n'ai pas donné de connotation guerrière jusqu'à présent. Ce sont des femmes chargées par le dieu Odin, que vous appelez Oda. Ça... C'est le TH dur de l'article anglais, n'est-ce pas ? Odin, que voici, que je salue pour la première fois, est le dieu qui choisit, non, qui désigne les Valkyries afin qu'elles lui choisissent des Einherjar, afin que ces Einherjar aillent peupler la Valhöll, Je fais aussi bien de rester debout. En vue des, c'est un pluriel, hein, en vue des Ragnarök. Ragnarök. Le sens exact de ce mot, c'est la consommation du destin des puissances suprêmes. Vous êtes content, hein? C'est beau quand même ça. En fait, c'est une espèce d'apocalypse qui se passera à la fin des temps. Et où les Einherjar combattront les forces du désordre, mal bien n'existe pas dans cette culture-là, pour assurer, pour empêcher la disparition du monde. J'en reparlerai. Voilà ce que c'est que les Valkyries. Alors, j'ai dit que j'allais suivre l'évolution de cette notion en diachronie, c'est-à-dire en chronologie. Parce que je vous ai donné l'acceptation... Pardon. Excusez-moi, je vous ai donné l'acception finale, si j'ose dire. Mais ces femmes-là n'ont pas du tout présenter constamment la même figure. Et il y aura quelque chose à faire sur leur compte, vraiment. Dans un premier temps, ce sont des femmes ailées. Des femmes ailées qui volent. Et ça, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas beaucoup rencontré de femmes ailées dans votre vie, n'est-ce pas ? Moi non plus, mais je cherche toujours, je cherche. Très bien. Des femmes ailées qui volent. C'est un thème qui est bien attesté, et qui est bien attesté aussi par l'archéologie. C'est un peu l'idée du grec daimon, que vous connaissez, c'est-à-dire un esprit supérieur qui est doté de pouvoirs que vous n'avez pas, ni moi non plus, daimon. Ne comprenez pas avec ce que nous avons fait, daimon, nous avons fait notre démon, n'est-ce pas ? Notre démon est d'une faiblesse insigne. Le daimon, pardon, grec, est beaucoup plus riche. Mais pensez aux Apsharas védiques, ça vous dit peut-être quelque chose, les Apsharas. Pensez aux Amazones grecques. Elles ne volent pas, hein, ni les unes ni les autres. Mais ce sont des daimons, de toute façon. J'ai un ami allemand, Peter Buchholz, qui est originaire de Hanover, vous voyez où c'est, dans le nord-ouest de l'Allemagne, et qui faisait remarquer, oui, ça c'est une chose très étonnante pour vous aujourd'hui, mais tous les pays scandinaves et tout le nord de l'Allemagne étaient, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, il y a un siècle ou deux, des pays considérablement marécageux, couverts de marécages. Ils ont fait un effort énorme de drainage, d'assèchement, et si vous traversez le Hanovre, par exemple, ou la Scanie suédoise, vous avez du mal à imaginer que c'était complètement noyé, tout ça. Alors, Peter Buchholz a cette idée que je trouve extraordinaire. Vous savez que si vous enterrez un corps d'animal ou un corps humain dans un territoire, très marécageux, au bout d'un certain temps, il se décompose, et la composition de l'atmosphère aidant, il se forme des feux follets. Vous avez peut-être déjà vu des feux follets dans votre vie. C'est très joli à voir, très. Ça a des formes aériennes, très jolies sur le plan esthétique, qui évoquent des ailes, si vous y tenez, pourquoi pas. Et la théorie de Peter, ce serait que la première idée de la notion, de la première notion de Valkyrie, ce serait une sorte de réflexion sur ces formes ailées qui évoquent, très jolies, très féminines, très féminines, qui renverraient au cadavre en décomposition. En allemand, ça s'appelle Die lebende Leiche, le cadavre vivant. Et oui, pourquoi pas, ça coïnciderait à ce premier stade de l'évolution. Pourquoi ? Parce que très souvent, à ce premier stade, hein, en ce moment, vous me suivez bien, je suis en chronologie stricte. À ce premier stade, les Valkyries sont souvent des femmes cygnes, C-Y, bien sûr, G-N-E-S, ou encore des femmes corbeaux, c'est-à-dire, de toute façon, des femmes ailées, de toute façon. Alors, cygne, c'est plus beau, corbeau. Corbeau était un oiseau qui n'avait pas la mauvaise réputation qu'il a chez nous, hein. C'était au contraire un oiseau de bon augure, le corbeau. On essayait de l'attirer, mais il avait la réputation, qui paraît-il est fausse, ça n'y connaît rien, de se nourrir de cadavres, le corbeau. Mais bref, femme cygne ou femme corbeau, ce serait le premier stade. Ou encore femme cheval. Ah, mais là, mesdames et messieurs, le professeur Boyer, il salive. Vous ne savez sans doute pas que le cheval, dans toutes nos mythologies, c'est le grand psychopompe. Bon, je ne suis pas en train de faire de la réclame pour des vélos, hein. Le psychopompe, dans toutes nos mythologies, c'est l'animal ou l'esprit qui est chargé de s'emparer de votre âme pour la conduire dans l'au-delà, lorsque vous mourrez. Autrement dit, la femme cygne, la femme corbeau, la femme cheval sont conçues en étroite relation avec la mort. Elles sont inventées ou imaginées comme étant ces esprits féminins qui ont des connivences avec la mort, qui vivent en collusion avec la mort, qui se chargent, lorsque vous mourrez, vous, homme surtout, de vous entraîner dans l'au-delà. Il se trouve que Odin, dont le nom était au tableau, il y a encore ? Oui, était le dieu de la mort. C'est même la seule figuration qu'il ait. Donc voilà, c'est la première fois que je me note. Non, la deuxième. La première fois, c'était à propos du Valhalla. Voilà la deuxième fois que j'établis une relation entre Odin et la mort via les Valkyries. C'est ça qui m'intéresse. Bon, ça va toujours ? Oh, les bons auditeurs que vous êtes, mes amis. J'en ai les larmes aux yeux. Alors, ça, c'était la première figure. La deuxième figure, je ne sais pas quelles sont. Vous savez que mon savoir se solde beaucoup plus par mes ignorances que par mes savoirs. Je ne sais pas sous quelle influence l'évolution s'est faite. Mais c'est là, maintenant, que la deuxième image s'impose, qui fait des Valkyries des guerrières. Ce qu'elles sont. Les voici maintenant appelées Skjaldmeyjar, les vierges aux boucliers. Les voici maintenant coïncidant avec l'imagerie que je vous ai dite. Elles sont à cheval, elles ont une lance dans la main, le cheval est au galop, elles vont vous tuer. Alors, je peux fournir une explication, mais je ne suis pas prêt à me faire fusiller pour cette explication-là. Ce deuxième avatar, le premier avatar, la femme qui vole, c'est, ça se perd dans la nuit des temps. Je ne le date pas. Ce deuxième avatar pourrait être un apport indo-européen. Tout le monde ici sait qui sont les indo-européens. C'est une peuplade qui vivait dans le Transcaucase, à peu près là où sont les Tchétchènes aujourd'hui, les Ossètes. Et ça n'est pas pour rien qu'ils donnent tant de difficultés à ces imbéciles heureux qui s'appellent Poutine, Medvedev et tous ces gens-là. Il est possible que vers 2500-3000 avant Jésus-Christ, une peuplade ait vécu là, qui pour diverses raisons était en avance sur les autres. C'est facile d'expliquer ce phénomène-là. Regardez ce que sont les États-Unis aujourd'hui par rapport au reste du monde. Voyez comment s'habillent nos enfants. Voyez ce que vous mangez. Voyez la musique, et là je pleure, qu'ils écoutent, vos enfants. Voyez les spectacles, qui les distraient, et ainsi de suite. Les États-Unis n'ont pas fait la guerre au monde entier, mais ils ont eu une sorte de rayonnement parce qu'ils étaient plus dynamiques, parce qu'ils étaient plus énergiques, qui s'est répandu dans le monde entier. Toutes les femmes du monde sont en blue jean. Que vous soyez à Tokyo, ou que vous soyez à Rio de Janeiro, et ainsi de suite. C'est une invention américaine, n'est-ce pas? Alors, je pense que l'humanité, qui était dans une situation première, sur laquelle je ne vais pas insister trop fort quand même, a accepté l'influence indo-européenne. Un peu comme vous êtes tous américanisés, que vous le croyez ou non. Or, je pense que ce sont les indo-européens qui, premièrement, ont porté en avant la suprématie de l'homme sur la femme et qui, deuxièmement, ont exalté les vertus, au sens latin du terme, guerrières. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, mes amis. Mais enfin, c'est tentant. Parce qu'il se trouve que c'est justement vers cette époque-là qu'on voit changer le concept de Valkyrie et qu'elle devient cette femme guerrière armée en broigne, en côte de maille, en haume, et ainsi de suite. Elle porte à partir de ce moment-là des noms parlants. Elle s'appelle Brynhildur, la bataille en broigne. Broigne, c'est une côte de maille. Elle s'appelle Guðrugundur, c'est-à-dire la bataille. Elle s'appelle Hildur, c'est-à-dire le combat. Elle s'appelle Skjul, c'est-à-dire la lance, et ainsi de suite. On ne sait pas comment elle s'appelait avant, n'est-ce pas? C'est à cette époque-là qu'elles prennent des noms, et des noms martiaux, des noms guerriers. L'idée n'est pas spécifiquement germanique. Les Amazones aussi surgissent à ce moment-là. Athéna, Pallas, que vous connaissez tous, c'est une déesse militaire, si j'ose dire, n'est-ce pas? Elle est armée et casquée, elle aussi. Les Amazones étaient tellement réputées militaires que, ça je ne crois pas que ce soit vrai, mais enfin c'est une étymologie, on dit. Amazon, ça voudrait dire à qui il manque un sein, et ce bien. Parce que les Amazones auraient pratiqué volontairement l'ablation du sein droit pour tirer plus facilement à l'arc. Vous n'êtes pas obligé de rire, hein. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'acception militaire, guerrière, surgit à un moment donné, et c'est celui où je suis. C'est aussi, par voie de conséquence, le moment où l'idée de guerre, d'affrontement violent, qui est censé être le moyen de régler les différends, surgit. Il est tentant de considérer que précédemment, c'était la discussion, les palabres, les ententes qui régissaient les apports humains. Hérodote, qui est un historien et un journaliste de premier ordre, dit des choses de ce style-là. Pline l'Ancien aussi. Strabon aussi. Bon, je vous excuse, je vous ennuie pas de tout ça. Que l'humanité ait réglé ses différends à coups de hache ou de lance ou de mitrailleuse ou de bombe atomique, c'est une chose récente. Il semble bien qu'à un stade plus avancé, plus ancien de notre histoire, ce n'était pas la façon dont se résolvaient les affrontements entre sexes. Ah, quand même, je vous vois phosphorer là, hein, un peu. Ça, c'est des choses qui méritent la réflexion, mesdames et messieurs. Surtout si vous êtes socialiste. Bon. Ensuite, et ce sera le troisième point de ma réflexion, on voit surgir une idée qui avait cours, mais qui n'avait pas cette prédominance, c'est-à-dire le rôle de la magie. Bon, j'ai beaucoup écrit sur la religion des anciens Germains, des anciens Scandinaves, et je suis arrivé à la conclusion que, contrairement aux âneries hitlériennes et de l'extrême droite, vous voyez que je suis un homme politiquement très engagé, n'est-ce pas, la religion nordique ancienne n'est pas une religion de la force. Si je ne suis venu ici que pour ça, je suis content de moi. L'idéal des anciens Germains, c'était la paix. Friedrich. Le roi, il n'y avait pas de monarchie dynastique. Le roi était un homme élu par ses pairs, P-A-I-R-S. Il était élu par ses pairs. Quel pair, comment élu, on ne sait pas trop. Mais on est bien documenté là-dessus. On le faisait monter sur une pierre et il était élu. Il y a longtemps, hein, quand même. Là, je vais vous apprendre quelque chose qui va bouleverser votre opinion bien établie. Il n'était pas élu pour être un grand chef de guerre, il n'était pas élu pour être un grand juriste, contrairement à ce que pensait Dumézil, il était élu, dit-il, Ors, Ork, Frida. Il était élu pour apporter des années fécondes, des années où il y avait des fruits, des années où les femmes donnaient des enfants, et la paix. Il était élu pour la fécondité et pour la paix. S'il réussissait, on le gardait, c'était un bon roi. S'il n'y réussissait pas, on l'avait fait monter sur une pierre pour l'élire, on le faisait remonter sur la pierre et on le renversait. De là l'expression « renverser le roi » qui est celle que vous pratiquez. Je disais toujours à mes étudiants, que c'est une pratique qu'on aurait dû conserver. Vous en avez assez du président de la République, vous le faites monter sur la pierre. Bon, alors, tout ça pour vous dire qu'on s'aperçoit que un tableau, je dirais objectif, hein, de la religion nordique ancienne, met délibérément l'accent sur la magie. La religion du Nord, de la Germania, n'est pas une religion de la force, n'est pas une religion du droit, je suis un homme de texte moi, hein. C'est une religion de la magie. Et du coup, ipso facto, si je peux me permettre, on voit les Valkyries devenir des magiciennes, devenir des magiciennes de premier ordre. Elles portent des noms qui vous plairaient, elles sont par exemple des Fylgjur, oui bon, je ne vais pas écrire ça au tableau, des femmes qui vous suivent. Ça veut dire ça, qui veille sur votre destinée. Ils font en sorte que la dite destinée soit bonne, féconde, prospère. Fylgja. Heiman Fylgja. Ah, bref. ou bien elles sont Hamingdjur. C'est-à-dire elles sont venues dans deux, trois sagas, comme des femmes gigantesques qui apparaissent au chef de famille pour lui dire « Attention, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu as tort, tu vas faire tort à ton clan. Au contraire, n'hésite pas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Si tu le fais, ça fera prospérer ton clan. » Hamingdjur. Ou encore, ça veut dire quelque chose, ce sont des nornes. N-O-R-N-E-S. Qui ne sont pas trois, comme le voulait Snorri Sturluson, qui était justement, c'est par là que j'ai commencé tout à l'heure, imprégné de culture grecque. Alors lui, il croit qu'elles sont trois. Il s'appelle Urdur, Verdandi, Skuld, c'est-à-dire passé, présent et avenir. Ça, c'est les parcs, ou les moires, n'est-ce pas? En fait, une recherche sérieuse montre qu'il y a autant de nornes que d'hommes. Chacun d'entre vous a sa norne, qui est un être féminin, homme ou femme, n'est-ce pas? Elle ressemble beaucoup, ça c'est pour Marie-Charlotte, à nos fées, les nornes, et notamment à nos fées marraines. Si elles sont présentées par trois, ça arrive. Il vaut mieux se les concilier. Mais il y a toujours un imbécile qui n'arrive pas à se les concilier à temps. Il fait trois aux desiderata des deux premières, et puis il maltraite la troisième. Du coup, la troisième se venge. C'est la fée marâtre. Vous connaissez tout ça. C'est une notion banale pour une assemblée d'élite comme vous êtes. Donc, c'était le troisième avatar. C'est à l'époque très moderne, c'est-à-dire une fois passée la christianisation. Il se trouve que le Nord tout entier a été christianisé autour de l'an 1000. Autour de l'an 1000. 960 pour le Danemark, 999 pour l'Islande, 1000 pile pour la Norvège et 1021 pour la Suède. On ne peut pas être plus d'accord. Pourquoi ce consensus? On ne sait pas. Parce que les Vikings fréquentaient les nations chrétiennes depuis bien plus longtemps. Et on ne voit pas pourquoi ils ont attendu autour de l'an 1000 pour se convertir. Mais ils se convertissent autour de l'an 1000. Alors l'Église, là comme partout ailleurs, a lutté toutes ses forces contre toutes ces créatures, mythes, rites, païens. Et ou bien leur a substitué ses propres rites, je vais en reparler, ou bien les a carrément combattus. Ce qui fait que les Valkyries disparaissent. Alors je suis autour de 1100 dans les textes, hein. Dans mes textes authentiques, c'est-à-dire dans ceux où on n'est pas obligé de subodorer des influences chrétiennes ou bibliques, comme vous voudrez. Alors autour de ces dates-là, on voit les Valkyries qui existent toujours avec leur vertu tutélaire, protectrice, mais débarrassées de tout cet appareil magique ou belliqueux ou trans. Sexuelle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'époque où les Valkyries, je dis ça aux messieurs, sont fréquentables, n'est-ce pas? J'imagine que pas mal d'entre vous avaient saisi l'occasion d'aventure, oui, n'est-ce pas? Bon. Alors, il y a quand même une remarque à faire. Elles se sont réfugiées maintenant au stade où j'en suis. Je vais vous proposer. J'ai encore 5 minutes.
Oui, oui, allez-y. Bon.
Je vais vous proposer une sorte de synthèse. En fait, j'ai pas eu le temps de vous lire les textes que j'avais apportés, puis j'ai pas eu le temps de faire tous les développements auxquels il lui fallu, auxquels il lui convenu, que je m'adonnasse.
Il y a des livres, et puis il faut vendre pour les bouquins.
Ce que je veux dire, c'est que si j'avais été vraiment exact dans le détail de ce que je vous ai dit, j'aurais dû citer Odin, son nom a disparu du tableau, tout le temps. C'est lui qui préside à cette espèce de transmutation du naturel en spirituel, les femmes ailées. C'est lui qui préside à la mort, c'est le dieu de la mort, je vous l'ai dit déjà. Il est le grand magicien, c'est le dieu savant, Odin. Et il continuera de régenter, et c'est ça qui a séduit Wagner, un certain type d'imagination occidentale qui n'est pas le bon type. Mais qui est? Je veux dire par là que le dieu Odin, Wotan, est sûrement une création germanique authentique est sûrement très ancienne, quoique il a 111 noms dans nos textes. 111 noms. Un dieu qui a 111 noms, ça ne se rencontre pas tous les jours. Donc il ressemble à Protée, le dieu Protée, qui lui aussi a une quantité de noms et qui d'ailleurs est susceptible d'adopter une quantité de formes, puisqu'il est protéiforme, n'est-ce pas ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien évident, d'une part, entre Odin et la mort, d'autre, la mort qui est... Le savoir, oui, j'aurais dû faire un... Oui, il y a trop de choses à dire. La mort n'existait pas dans la mentalité germanique ancienne. La mort est un changement d'état. Un point, c'est tout. Il n'y a pas, dans cette culture, cette solution de continuité radicale que le christianisme, entre autres, a introduit chez nous. Il est mort, bon, il a changé d'état. Il est toujours vivant. Alors, c'est pas mon sujet, mais je pourrais en parler pendant des heures. Le mort qui n'est pas mort peut revenir hanter le monde des vivants pour diverses raisons, peut se manifester sous des formes bien connues aux vivants, peut venir réinsuffler une activité vitale aux vivants, et ainsi de suite. Et alors, l'idée que je veux développer très vite, c'est que d'abord, il y a beaucoup de Valkyries qui portent des noms, qui se souviennent du nom d'Odin. Geirrlul, Geirrmul, c'est des noms d'Odin, ça. C'est aussi des noms de Valkyries. Ensuite, les textes disent que ce sont vraiment des servantes d'Odin. Elles lui doivent obéissance. Si elles ne lui obéissent pas, ça leur arrive. Elles tombent amoureuses du héros qu'elles affectionnent. Si elles n'y obéissent pas, elles sont réduites au statut de simple femme, ce qui vraiment est triste, très triste. Et surtout, il y a un rapport de concomitance qui se fait entre les Valkyries et Odin du côté de la mort. Odin est dieu de la mort. Les Valkyries, sous tous les aspects que je vous ai énumérés, sont des divinités de la mort. Ou bien elles émanent de cadavres en putréfaction, ou bien elles sont armées afin de tuer le héros, ou bien elles pratiquent l'art noir, l'art magique par excellence, qui est une sorte d'abolition de la ligne de démarcation entre monde des vivants et monde des morts. Autrement dit, elles sont l'expression que cette mentalité religieuse-là avait tenue à donner de la mort, du complexe d'idées qu'elle faisait tourner autour de la mort. Et je vous laisserai sur une dernière idée. J'ai mis au tableau tout à l'heure le mot Einherri, pluriel Einherriar, donc le guerrier d'élite, le guerrier parangon, qui ira peupler la Valhöll afin d'assurer le triomphe des Ragnarök. Il arrive dans le stade 2 du développement dont je vous ai assassiné. Il arrive assez souvent qu'une Valkyrie tombe amoureuse d'un héros. Il s'appelle Helgi. Il s'appelle Sigurdur, que vous appelez Siegfried. Tombe amoureuse, comme n'importe quelle femme peut tomber amoureuse de n'importe quel homme. Et alors je me demande, puisque le Einherri est chargé de triompher de la mort lors des Ragnarök, d'une part, et que d'autre part, la Valkyrie émane de la mort, je me demande s'il n'y a pas adéquation bisexuée, c'est-à-dire retour à l'androgyne fondamentale, donc réinstauration de la déesse mère. Je me demande s'il n'y a pas identité. C'est une théorie, hein. Je ne vous donne pas ça comme un fait scientifique. Identité entre Einherri et Valkyria. La Valkyrie serait la face féminine de cette réalité masculine que serait le guerrier héroïque. Ou bien, le guerrier héroïque aurait besoin de la tutelle de la Valkyrie pour parvenir à ses fins. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en vous remerciant et en vous félicitant de la qualité de votre attention. Un de mes maîtres à penser s'appelle Joseph Joubert. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'était un des grands amis de Chateaubriand et il a écrit un recueil de pensées que je me permets de vous recommander. Et Joubert dit quelque part, la grande affaire de l'homme, c'est la vie, et la grande affaire de la vie, c'est la mort. Alors, je vais un petit commentaire. Les Ragnarok, donc cette espèce d'apocalypse à la nordique ancienne, en fait c'est un phénomène absurde. Comment ça absurde? Ce n'est pas la fin des temps. Lorsque le cataclysme universel se sera déchaîné, que vous connaissez bien, tout ne sera pas détruit ni éteint. Il va subsister le grand arbre du monde. Il s'appelle Yggdrasil, vous avez dû en entendre parler. Lui, il a résisté à tout. Il a défié l'apocalypse. Et au pied de ce grand arbre va subsister un couple. Elle s'appelle Liv. L-I-F. C'est-à-dire la vie. Je vais les écrire en live. Et lui, il s'appelle Liv Frasir. La lettre qui est là, c'est le TH dur de l'anglais through, thick, thin. Alors, elle s'appelle vie, V-I-E, et lui, il s'appelle ardent de vivre, vivace, désireux de vivre. C'est eux qui assurent la survie, quelqu'un de le dire, du monde, et qui défie le caractère apocalyptique dont je suis en train de vous parler. Alors, quand Joseph Joubert dit « La grande affaire de l'homme, c'est la vie », vous pouvez traduire « La grande affaire de l'homme, c'est la femme ». Et quand il ajoute « La grande affaire de la vie, c'est la mort », vous pouvez ajouter « La grande affaire de la femme, c'est la mort ». C'est-à-dire « La grande affaire de l'homme, c'est la Valkyrie », « La grande affaire de la Valkyrie, c'est la mort ». Voilà. Merci.